VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'édition du mercredi 15 juillet 2015. À la une ce soir, au moins 45 morts dans le nord-est du Nigeria. Depuis lundi, suite à une série de raids de la milice djihadiste Boko Haram.
Arrestation d'une vingtaine de djihadistes présumés par les forces de sécurité du Mali.
Le Gabon renforce le contrôle du port du voile intégral.
Il faut comprendre que le Gabon abrite une forte colonie musulmane qui, souvent, n'est pas d'origine gabonaise. Et donc, nous avons quelques musulmans qui portent le voile.
Réaction et analyse à suivre avec un leader de la société civile à Libreville.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama s'est exprimé au sujet de l'accord historique sur le nucléaire iranien.
Camille Grosdidier et Chérubin Dorcil avec vous. Et bien sûr, nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal.
Arrestation d'une vingtaine de djihadistes présumés par les forces de sécurité du Mali. Parmi les 20 personnes arrêtées figurent deux franco-maliens. Les 20 ont été pris à Zégoua, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, puis conduits à Bamako pour interrogatoire. Kassim Traoré.
C'est sur la base des informations fournies par les services de renseignement maliens que ces hommes ont été appréhendés à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, plus précisément dans la localité de Zégoua. Ils s'apprêtaient à prendre des cars pour Bamako afin d'accomplir des missions terroristes. Parmi les 20 personnes arrêtées, il y a deux Français. Ils doivent tous se répondre de leurs actes devant les gendarmes maliens. Ces arrestations font suite aux opérations de rastissage que les FAMA ont menées dans la zone frontalière entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour rechercher les djihadistes. Les 20 personnes arrêtées ne sont pas les seuls djihadistes dans la zone qui a été doublement attaquée. D'abord à Misseni dans le cercle de Kadjoulou, puis à Fakoula dans le cercle de Kolondjeba. Ces attaques plus celles de Nara ont été revendiquées par Ansar Dine du terroriste malien Iyad Agali, qui veut coûte que coûte avoir sa place dans le processus de paix au Mali, même si l'on sait que le HCIA est composé uniquement de ces éléments. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au moins 45 morts dans le nord-est du Nigeria depuis lundi suite à une série de raids de la milice djihadiste Boko Haram. Selon des témoins, une attaque contre la localité de Mainok lundi soir a coûté la vie à au moins 30 personnes. Les assaillants ont brûlé des centaines d'habitations au point que des cadavres n'ont pas pu être identifiés. Mardi soir, d'autres miliciens ont attaqué le village de Warsala, tuant au moins 15 personnes.
Selon l'agence Reuters, la milice djihadiste Boko Haram a effectué un raid contre la ville de Damasak, près de la frontière avec le Niger, et aurait attaqué un autre village dans l'état de Borno. Le bilan serait d'au moins 12 morts et la milice aurait incendié les bâtiments. Les coalisés s'étaient retirés de Damasak après avoir repris la localité à Boko Haram en mars.
Le président ougandais, Yoweri Museveni, a quitté les négociations sur la crise burundaise. Son ministre de la Défense doit prendre la relève. Idriss Fall.
Le chef de l'État ougandais était à Bujumbura pour 24 heures afin de tenter de dénouer la crise. Il a refusé de donner les détails sur les discussions qu'il a entamées hier après-midi avec le camp présidentiel, l'opposition et la société civile. Il a seulement assuré que toutes les parties étaient d'accord pour négocier intensément, sans interruption et promptement pour trouver un accord. Il a ensuite quitté l'hôtel Bel Air où se tiennent les négociations. Son ministre de la Défense, Crispus Kiyonga, doit prendre le relais demain jeudi. Yoweri Museveni a été mandaté par la communauté est-africaine pour dénouer la crise déclenchée par la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat que rejettent l'opposition et la société civile. L'élection présidentielle a été reportée au 21 juillet.
Alors qu'aux Nations Unies, le représentant spécial du secrétaire général pour la République démocratique du Congo, Martin Kobler, a salué mardi les avancées récentes en matière de lutte contre les groupes armés. Sur le terrain, une dizaine de civils ont été tués. On fait le point avec Jean-Roger Bion.
Radio Okapi signale qu'au moins 9 civils ont été tués par balle à la machette mardi 14 juillet à Kakuka, un village situé à 90 km au nord-est de Beni, dans la province du Nord Kivu. La radio cite à cet effet Teddy Kataliko, le président de la société civile de ce territoire. L'armée congolaise serait à la poursuite des assaillants, que la société civile croit être les rebelles ougandais des ADF. Les miliciens auraient également brûlé 69 maisons et l'on signale 2 disparus dans cette attaque attribuée donc aux ADF. Le porte-parole adjoint des opérations militaires, le lieutenant Mike Azuke, a évoqué une incursion des ADF qui aurait profité du redéploiement des nouvelles unités des forces armées de la RDC dans la zone pour commettre ces crimes. La situation est revenue sous contrôle de l'armée, a-t-il dit, toujours cité par Radio Okapi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À l'occasion d'une conférence de presse ici à Washington, le président Barack Obama s'est exprimé aujourd'hui plus longuement sur l'accord historique intervenu entre l'Occident et l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran. Le point avec Timothée Donangmaï.
Et oui, Camille, le chef de l'exécutif américain tente d'expliquer aux Américains et à leurs législateurs sceptiques les mérites de l'accord historique sur le programme nucléaire iranien. Pour le président Obama, l'accord avec l'Iran offre une possibilité d'œuvrer en vue de résoudre pacifiquement une menace majeure à la sécurité régionale et internationale.
With this deal, if Iran violates its commitments, there will be real consequences.
Avec cet accord, si l'Iran viole ses engagements, il y aura de réelles conséquences, a-t-il averti. Les sanctions liées au nucléaire, qui avaient aidé à mettre à genoux l'économie iranienne, seraient réactivées. Sans accord, le régime des sanctions internationales s'effondrerait avec peu de chances de les réimposer, a-t-il souligné. C'était la diplomatie ou la guerre, a dit le chef de l'exécutif américain. Sans un accord, on courait le risque d'affrontements accrus au Moyen-Orient et sans un accord, d'autres pays de la région se sentiraient obligés de lancer leur propre programme nucléaire dans la région la plus volatile au monde. Barack Obama a assuré que l'accord bloque chacune des voies dont disposait l'Iran pour développer un programme d'armes nucléaires. Il a tout de même reconnu que même sans armes nucléaires, l'Iran continue de constituer un défi pour les intérêts américains dans la région et dans le monde. De l'avis du chef de l'exécutif américain, Israël a des préoccupations légitimes concernant sa sécurité en rapport avec l'Iran, des menaces qui s'aggraveraient si l'Iran venait à se doter de l'arme nucléaire, a-t-il ajouté. Le président Obama a indiqué qu'il s'attend à un vigoureux débat au Congrès sur l'accord avec l'Iran. Et à ce propos, le sénateur Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, a fait savoir que l'accord est tout à l'avantage de l'Iran au lieu de mettre fin au programme nucléaire de l'Iran. Parmi les autres sujets abordés par le président Barack Obama ce soir, la Syrie, une crise qui ne saurait être résolue sans le soutien de la Russie, de la Turquie et d'autres partenaires, a-t-il dit. L'Iran a besoin de prendre part à ces discussions, a souligné le président Barack Obama.
Merci Timothée Donangmaï. Le Fonds monétaire international a demandé une nouvelle fois un fort allègement de la dette de la Grèce par l'Europe, alors que l'accord entre Athènes et ses créanciers devait être adopté ce mercredi soir au Parlement grec, mais avec un risque pour le Premier ministre Alexis Tsipras de perdre sa majorité parlementaire. Sa ministre adjointe des Finances, Nadia Valavani, également députée du parti au pouvoir, a aujourd'hui même présenté sa démission du gouvernement. Jacques Aristide.
La solution imposée à la Grèce par les créanciers n'est pas viable, d'après la ministre Valavani, qui a donc décidé de quitter le gouvernement pour voter contre le projet de loi. Le vote sur les nouvelles mesures d'austérité, dont une hausse des impôts exigée par l'Union européenne et le FMI, et visant à garantir le maintien de la Grèce dans la zone euro, met à l'épreuve la cohésion du parti Syriza. Au moins 4 députés du parti ont déjà indiqué qu'ils allaient voter contre, selon l'AFP. Ce projet de loi, s'il est adopté, doit permettre au gouvernement grec d'obtenir dans quelques semaines un troisième plan d'aide d'au moins 80 milliards d'euros. Le texte est loin d'alléger l'austérité rejetée par une majorité de Grecs lors d'un référendum le 5 juillet. Au cours d'une interview télévisée mardi soir, le Premier ministre Tsipras a déclaré assumer la responsabilité d'un accord auquel il ne croit pas lui-même, mais qu'il a signé pour éviter un désastre au pays. Pour sa part, le FMI a semé le trouble hier soir en affirmant que la dette grecque est totalement non viable et doit subir une forte cure d'amaigrissement, soit par une longue extension des délais de remboursement, soit préférablement par un allègement pur et simple auquel les Européens sont opposés pour l'heure.
Les autorités ukrainiennes ont fait état de 8 soldats tués et 16 autres blessés hier et aujourd'hui dans les affrontements avec les rebelles pro-russes. C'est le bilan le plus lourd enregistré depuis un mois. Les rebelles pilonnent à l'artillerie des positions gouvernementales le long de la ligne de front près des villes de Svitlostarsk et Horlivka. Selon l'ONU, plus de 6500 personnes ont été tuées dans le conflit ukrainien depuis avril 2014.
La Chine a interpellé 20 touristes étrangers, 10 Sud-Africains, 9 Britanniques. britannique et un indien prenant part à un voyage sous l'égide d'une organisation religieuse humanitaire basée en Afrique du Sud. Selon le groupe The Gift of Givers, ils ont été arrêtés à l'aéroport d'Erdos en Mongolie intérieure vendredi. 11 ont été libérés, mais 9 autres restent en prison sans inculpation. On leur reprocherait de regarder des vidéos de propagande. Selon l'agence caritative, ces touristes n'ont aucun lien avec le terrorisme, mais participaient à un périple de 47 jours explorant la Chine ancienne.
L'agence spatiale américaine, la NASA, doit publier ce mercredi les photos répercutées par sa sonde New Horizon. Celle-ci a bien frôlé mardi sans encombre la planète naine Pluton aux confins du système solaire au terme d'une odyssée de presque 5 milliards de kilomètres entamée voilà 9 ans et demi. La sonde de la NASA est passée au plus près de Pluton et de ses 5 lunes comme prévu par la trajectoire que lui avait fixée l'agence spatiale américaine.
Voilà pour le journal.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. On enchaîne avec un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est bien sûr la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bion.
L'usage des sacs et autres emballages en plastique sera interdit à partir du 1er janvier 2016 à Moroni. Le ramassage des ordures et la pollution par déchets sauvages est un grand problème dans la capitale du petit archipel des Comores. Un projet qui va avoir un impact négatif sur l'économie comorienne. Le ministère du Commerce comorien estime en tout cas que le commerce des sachets rapporte annuellement entre 100 000 euros et 120 000 euros, une somme importante localement. Le Burkina Faso vient de bénéficier d'un appui de 25,3 millions d'euros de la Banque africaine de développement, la BAD, en soutien à son secteur énergétique, a appris l'agence de presse APA ce mercredi auprès du ministère en charge de l'énergie. Accordée via le guichet africain de développement, le FAD, l'enveloppe va financer le programme d'appui budgétaire au secteur de l'énergie. Et les députés français ont approuvé à une large majorité ce mercredi le plan d'aide à la Grèce présenté par le premier ministre Manuel Valls comme la seule voie pour un redressement économique de ce pays. Les députés ont voté en faveur de l'accord conclu entre la Grèce et les autres pays membres de la zone euro par 412 voix contre 69. Cet accord n'est pas un chèque en blanc, a déclaré Manuel Valls, qui demande beaucoup à la Grèce, non pas pour la punir, mais pour l'accompagner dans un redressement économique indispensable.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Bion.
Après l'économie, les sports, Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonjour Chérubin.
Officialisation de l'arrivée de Sunday Oliseh à la tête du Nigeria.
Oui, l'ancien capitaine des Super Eagles a été présenté officiellement ce mercredi comme le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Il succède à Stephen Keshi, écarté une semaine plus tôt pour manque d'engagement. Selon la fédération nigériane, Sunday Oliseh a signé un contrat de 3 ans. Son premier objectif sera le match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie en septembre prochain. Ancien milieu offensif, Oliseh a été champion olympique à Atlanta en 1996, champion d'Afrique en 1994. Il a participé avec le Nigeria aux Coupes du Monde 1994 et 1998.
Rubrique transfert.
L'international uruguayen Maxi Pereira a signé pour 3 ans avec le FC Porto, adversaire au nid du Benfica de Lisbonne où il jouait depuis 8 ans. C'est ce qu'a annoncé mercredi le club du nord du Portugal. Maximiliano Pereira, arrière droit de 31 ans, occupera dans l'effectif de Porto la place laissée vacante par le départ de l'international brésilien Danilo, recruté par le Real Madrid pour 31,5 millions d'euros.
En cyclisme, comment s'est passée la 11e étape du Tour de France ?
Le Polonais Rafał Majka de l'équipe Tinkoff a remplacé son chef de file, l'Espagnol Alberto Contador, en haut de l'affiche du Tour, dont il a gagné cette 11e étape mercredi à Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Le Britannique Chris Froome de l'équipe Sky a conservé son maillot jaune sans être inquiété par ses adversaires.
Et les athlètes kényans se mobilisent, Nicolas.
Deux célèbres coureurs kényans, dont les anciennes stars du marathon Wilson Kipsang et Tegla Lorupe, ont donné le coup d'envoi ce mercredi d'une marche de la paix de 22 jours contre les violences intercommunautaires. Longue de 836 km, la marche est organisée par l'ex-champion de marathon des Jeux du Commonwealth, John Kelly, en mémoire de 3 de ses oncles tués lorsqu'il était adolescent. La légende de l'athlétisme éthiopien, Haile Gebrselassie, devrait rejoindre les marcheurs vers la fin de leur circuit, prévu pour s'achever le 6 août.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Rubin Dorcil et Camille Grosdidier en votre compagnie, place au dossier du jour. On commence avec Amnesty International. L'ONG de défense des droits humains a lancé mercredi au Burkina Faso une campagne pour sensibiliser et interpeller sur la santé reproductive, notamment l'accès à la contraception par les femmes et les filles. Levons les obstacles, c'est le slogan de cette campagne dénommée « Mon corps, mes droits ». Elle fait suite à une étude menée en 2010 sur les décès maternels au Burkina et elle sera axée sur le volet accès aux méthodes contraceptives par les femmes et les filles. Kiné Fatim Diop, chargée de campagne Afrique de l'Ouest pour Amnesty International, nous en dit davantage.
On entend mobiliser l'ensemble des candidats pour qu'ils prennent en compte dans leur manifeste, dans leur profession de foi, dans leur programme, la situation des femmes et des filles au Burkina Faso. Parce qu'à la suite de nos recherches, on s'est rendu compte que les femmes au Burkina Faso et les filles rencontrent beaucoup d'obstacles pour accéder à la contraception, pour décider de leur corps, si elles veulent se marier, si elles ne veulent pas se marier. Et pour cela, nous avons lancé un manifeste qui a été co-signé par 31 organisations qui travaillent dans le domaine des droits sexuels et reproductifs au Burkina Faso. Et on leur demande de s'engager à bâtir un pays où la dignité de la femme est respectée, les droits des femmes sont respectés.
Pourquoi est-ce qu'il y a, par exemple, tant d'hostilité à laisser les femmes contrôler leur santé reproductive?
Alors, lorsque nous faisons l'analyse, nous avons plusieurs éléments et lorsque nous avons pu discuter sur le terrain avec les femmes et les filles, l'une des premières choses, c'est la distance. Souvent, en milieu rural, les centres de santé, les hôpitaux sont assez loin et les femmes doivent parcourir des kilomètres pour accéder à des méthodes de contraception. Le coût également est un élément qui vient parce que souvent, les femmes n'ont pas les moyens. Mais également, au niveau de l'attitude des hommes, on se rend compte très souvent que les hommes n'acceptent pas que leurs femmes prennent un produit de contraception. Souvent, la contraception est associée à l'infidélité, à la frivolité. Donc, les femmes prennent souvent en cachette les produits de contraception. Donc, il y a cette pesanteur socioculturelle qui fait que les femmes ont du mal aussi à accéder à la contraception.
Est-ce que les femmes sont mieux protégées par la loi, mais ces lois restent lettre morte à cause des coutumes? Les coutumes, par exemple, marier des filles très jeunes à des hommes plus âgés, etc.
Exactement. La Constitution au Burkina Faso reconnaît les mêmes droits pour les hommes, les femmes, les filles, les garçons. Malheureusement, quand on passe en pratique, on se rend compte que les femmes sont victimes de discrimination du seul fait qu'elles soient les femmes. Donc, par exemple, dans le cadre du mariage forcé, mariage des enfants, on se rend compte que 52% des filles sont mariées à l'âge de 18 ans. Et la loi qui cadre un peu le mariage ne prend pas en compte le mariage coutumier. Et beaucoup de filles donc, sont mariées à 12 ans. On leur prend leur enfance, elles sont catapultées dans une vie d'adulte qu'elles ne veulent pas. Elles sont retirées de l'école et sont forcées à se marier à des hommes qui sont souvent plus âgés qu'elles.
Madame Kiné Fatim Diop, chargée de campagne Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
Cap sur le Gabon, suite aux récents attentats commis par les salafistes armés dans la région, le gouvernement gabonais a décidé de renforcer la mesure annoncée il y a quelques semaines contre le port du voile intégral. Toutefois, selon les observateurs, cette précaution pourrait s'avérer inadéquate vu le flux migratoire quasiment incontrôlé. Un fort pourcentage de la population est d'origine étrangère. Pour une analyse, j'ai joint l'un des dirigeants de la société civile gabonaise, Dieudonné Minlama Mentoko.
Après les attentats du Tchad, d'après les autorités gabonaises, les personnes qui ont eu à commettre ces attentats étaient en voile. Donc, cette situation a créé un traumatisme au niveau de la sous-région en général. Et c'est pour cette raison que les autorités gabonaises ont décidé de prendre les devants en essayant d'interdire le port du voile. C'est une mesure qui est arrivée assez brutalement. et qui automatiquement va sûrement créer une psychose au niveau de la population aujourd'hui.
Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça n'entre pas dans les habitudes des Gabonaises?
Oui, en réalité, les Gabonaises ne portent pas de voile dans notre tradition, dans notre culture. Mais il faut comprendre que le Gabon abrite une forte colonie musulmane qui, souvent, n'est pas d'origine gabonaise. Et donc, nous avons quelques musulmans qui portent le voile. Les Haoussa qui sont au Gabon depuis très longtemps, nous voyons le voile, mais on a la face de la personne. Mais depuis quelques temps aussi, nous avons remarqué que certaines personnes sont arrivées au Gabon et qui portaient un voile pratiquement total. Bon, je crois que ce qui s'est passé au Tchad et la situation de l'insécurité d'Afrique centrale à cause du Boko Haram et autres crée quand même une petite psychose et surtout la réaction du gouvernement.
Est-ce que le Gabon a raison de s'inquiéter?
Il faut dire que quand la maison du voisin brûle, on peut avoir peur de tout. Parce que le Gabon, malheureusement, nous avons des frontières très poreuses. Les gens rentrent énormément ici. La communauté étrangère est très, très grande au Gabon. À la limite, je crois que plus de 35% de la population est actuellement composée par des étrangers qui, le plus souvent, rentrent au Gabon de façon illégale. Donc, il y a quand même des motifs aujourd'hui, après ce qui s'est passé au Tchad et après, avec la progression de Boko Haram au Cameroun, qu'il y ait des inquiétudes au niveau de la population qui déjà s'opposait pratiquement à la mesure de la CEMAC qui voulait instaurer la notification des personnes et des biens.
Dieudonné Minlama Mintogo, président de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon. Je l'ai joint à Libreville.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur la prêturie de Charleston aux États-Unis, relations entre blancs et africains-américains, port d'armes, actes qui relèvent du terrorisme. Quels sont, d'après vous, les enseignements que peuvent tirer les Américains de cette fusillade de trop? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, on se tourne vers la République démocratique du Congo. Comment réduire la pauvreté par l'agriculture? Eh bien, la RDC s'emploie à encadrer sa jeunesse dans le secteur agricole. Des jeunes venus de la province orientale, du Sud Kivu, de Kinshasa et du Nigeria ont présenté mardi leurs produits au Premier ministre, Augustin Matata Ponyo. Il s'agit d'une activité dénommée « Exposition des jeunes congolais » et agrobusiness. Ces produits sont dérivés du manioc et du soja. Je vous propose ce reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Avec cette initiative, Christelle Baumet de Kinshasa pense que les jeunes peuvent se prendre en charge.
En fait, nous avons présenté le produit fabriqué en base de farine de manioc. Cette initiative nous a beaucoup été utile dans la mesure où nous avons constaté que le taux de chômage était tellement élevé dans notre pays et que ce taux de chômage, l'opportunité n'était pas donnée aux jeunes d'accéder à avoir un emploi stable leur permettant de survenir à leurs besoins. Mais c'est seulement avec cette initiative qu'on a compris que nous pouvons s'auto-prendre en charge.
Prince Kaboya de la province du Sud Kivu exhorte les initiateurs de ces projets qui les mènent à bon port.
Il faut qu'il y ait un suivi régulier et il faut aussi qu'il y ait des motivations et d'encouragement des jeunes pour qu'ils ne puissent pas abandonner. Vous savez, la première expérience, il faut continuer à encadrer les jeunes jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils peuvent déjà être sevrés. Donc, ils peuvent être voler de leurs propres ailes.
Pour Evelyne Oyanyusi du Nigeria, l'idéal serait d'aller vers l'agriculture mécanisée.
Notre préoccupation, c'est de quitter de cette phase-là la production manuelle.
I think for us to move ahead is not about the speeches, but now it's time to get our hands.
C'est tout cela qui est utile en fait par rapport au travail que sont en train de faire. Ce n'est pas une simple décision à prendre, mais il faudra à tout prix que l'agriculture soit mécanisée.
Le processus
de planter seulement avec la main, tout ça.
Access to mechanization, access to finances.
Léonie Singa Amundala de la province orientale juge positivement cette expérience.
Nous avons bénéficié de la formation. Nous avons fait les échanges des différentes formules et recettes pour qu'on puisse s'exposer à la population et pour créer aussi de l'emploi de notre part, pour récupérer quand même quelque chose de bénéfique. Nous voulons que l'État puisse nous aider, venir secourir pour faciliter le développement de notre exposition.
Quel genre de secours attendez-vous de l'État?
D'une manière générale, surtout financière, accompagnement par des formations de différents domaines pour éviter encore des supports extérieurs.
Kinshasa, Cyril Milando de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
On sera maintenant au Maroc où les quatre jeunes arrêtés à Marrakech pour n'avoir pas respecté le jeûne du Ramadan publiquement ont été condamnés hier à 2 mois de prison avec sursis. Un jugement plutôt clément puisque l'article 222 du code pénal punit la rupture publique du jeûne pendant le mois de Ramadan d'une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison ferme, souligne le président de l'antenne française de l'association marocaine des droits de l'homme.
On peut se réjouir que les jeunes n'ont été pas condamnés à une peine plus lourde, comme le stipule le code pénal. Mais notre combat reste d'abroger cet article et de garantir la liberté de conscience, la liberté individuelle d'une manière générale.
Est-ce que vous avez l'impression que la situation s'est dégradée, s'est détériorée ces dernières années en matière de liberté?
Pour aller plus loin, je vais quand même contextualiser la situation politique d'une manière générale au Maroc, où il y a une régression nette des droits civils et politiques, notamment avec la clémence de la justice vis-à-vis des agresseurs des jeunes filles d'Inès Gann. Dans ce cas où l'État continue à négliger ses engagements vis-à-vis des élections nationales, où elle-même a signé des protocoles qui garantissent la liberté de conscience et la liberté individuelle, sauf que cela, en fait, c'est une image que l'État marocain essaie de vendre à l'étranger, mais qui n'est pas le cas, malheureusement, au Maroc. Et au-delà de cette histoire, il y a d'autres cas qu'on peut constater, notamment le cas des homosexuels qui sont arrêtés et qui sont jugés à des peines lourdes. Et notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, l'État marocain, notamment à travers le projet de loi qui est en cours, que tous ces articles qui portent atteinte à la liberté individuelle cessent. Et malheureusement, aujourd'hui, cette non-garantie des libertés individuelles sont de plus en plus nombreuses. C'est surtout, en fait, le contexte général, parce qu'on a pu constater qu'il y a des appels au meurtre au Maroc contre des intellectuels, comme le cas de Ahmed Rafid, des appels au meurtre contre des chiites, alors que l'État marocain ne fait rien pour que ces personnes soient jugées. Donc, il y a quand même une complicité de l'État marocain qui, d'une manière indirecte, encourage ces gens à aller plus loin dans leur acte. Et, par exemple, les agressions que les femmes subissent au Maroc, au lieu de poursuivre les agresseurs, on poursuit les victimes. C'est comme d'ailleurs le cas de la torture au Maroc, quand quelqu'un est torturé, on poursuit les victimes. Et ça concerne malheureusement plusieurs aspects de la société marocaine. Aujourd'hui, on est vraiment dans une période de régression très nette.
Wadi Alankouri, président de l'antenne française de l'Association marocaine des droits de l'homme, était joint à Paris par Claire Morin-Gibourg.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ici Washington, la voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous. Voilà, ainsi s'achève cette édition du Monde Aujourd'hui. Elle était donc préparée par Chérubin Dorcil et Camille Grosdidier, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur Facebook ainsi que sur notre site internet voaafrique.com. Et dans un instant, bien sûr, le magazine sur la religion, un magazine interactif qui sera présenté ce soir par Timothée Donangmai, qui vient d'entrer dans le studio. Alors, restez avec nous et une très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.